Je cite au tribunal de Dieu.
Le jardin du palais n'était séparé de l'île aux Juifs que par un mince bras de fleuve. Le bûcher avait été dressé de manière à faire face à la loggia royale de la tour de l'eau. Les curieux ne cessaient d'affluer sur les deux berges boueuses de la Seine, et l'îlot lui-même disparaissait sous le piétinement de la foule. Les passeurs ce soir faisaient fortune, mais les archers étaient bien alignés. Les sergents truffaient les rassemblements. Des piquets d'hommes d'armes avaient été postés sur les ponts et aux issues de toutes les rues qui aboutissaient à la rive. « Marigny, vous pourrez complimenter le prévôt, » dit le roi à son coadjuteur. L'agitation dont on avait pu redouter le matin qu'elle ne tourna à la révolte s'achevait en fête populaire, en liesse foraine, en divertissement tragique offert par le roi à sa capitale. Il régnait une atmosphère de kermesse. Des truands se mêlaient aux bourgeois qui s'étaient dérangés en famille. Les filles folieuses étaient accourues, fardées et teintes des ruelles derrière Notre-Dame, où elles exerçaient leur commerce. Des gamins se faufilaient entre les pieds des gens pour gagner les premiers rangs. Quelques juifs, serrés en groupes timides, la rouelle jaune sur leur manteau était venue regarder ce supplice dont, pour une fois, ils ne faisaient pas les frais. Et de belles dames en surcot fourré, quêteuses d'émotions fortes, se serraient contre leurs galants en poussant de petits cris nerveux. L'air était presque froid. Le vent soufflait par courtes rafales. La lueur des torches répandait sur le fleuve des marbrures rouges. Messire Alain de Pareille, chapeau de fer en tête, l'air ennuyé comme toujours, se tenait à cheval en avant de ses archers. Autour du bûcher, dont la hauteur dépassait la taille d'un homme, les bourreaux et leurs aides encapuchonnés de rouge s'affairaient, rectifiaient l'alignement des rondins, préparaient les fagots de réserve avec le souci du travail bien fait. Au sommet du bûcher, le grand maître des Templiers et le précepteur de Normandie étaient déjà liés côte à côte à leur poteau. On leur avait mis sur la tête l'infamante mitre de papier des hérétiques. Un moine tendait vers leur visage un crucifix à longue hampe et leur adressait ses dernières exhortations. La foule fit silence pour entendre le moine. « Dans un instant, vous allez comparaître devant Dieu. Il est temps encore de confesser vos fautes et de vous repentir. Je vous en adjure pour la dernière fois. » Là-haut, les condamnés immobiles entre ciel et terre, et la barbe tordue par le vent ne répondirent pas. « Ils refusent de se confesser, ils ne se repentent point, » murmura-t-on dans l'assistance. Le silence devint plus dense, plus profond. Le moine s'était agenouillé au pied du bûcher et récitait les prières en latin. Le maître bourreau prit de la main d'un de ses êtres le brandon d'étoupe allumé qu'il fit tournoyer plusieurs fois pour en aviver la flamme. Un enfant se mit à pleurer et l'on entendit claquer le bruit d'une gifle. Alain de Pareille se tourna vers la loggia royale, comme s'il demandait un ordre. Tous les regards, toutes les têtes se dirigèrent du même côté, et toutes les respirations restèrent en suspens. Philippe le Bel était debout, contre la balustrade, avec les membres de son conseil alignés le part et d'autre de sa personne, et formant sous la lumière des torches comme un bas-relief au flanc de la tour. Les condamnés eux-mêmes avaient levé les yeux vers la loggia. Le regard du roi et celui du grand maître se croisèrent, se mesurèrent, s'accrochèrent, se retinrent. Personne ne pouvait savoir quelle pensée, quel sentiment, quel souvenir roulait sous le front des deux ennemis. Mais la foule perçut instinctivement que quelque chose de grandiose, de terrible, de surhumain était en train de se jouer dans cet affrontement muet entre ces deux princes de la terre, l'un tout-puissant, l'autre qu'il avait été. Le grand maître du temple allait-il enfin s'humilier et demander pitié? Et le roi Philippe le Bel allait-il dans un mouvement d'ultime clémence gracier les condamnés? Le roi fit un geste de la main, et l'on vit étinceler une bague à son doigt. Alain de Pareille répéta le geste à l'intention du bourreau, et celui-ci enfonça le brandon d'étoupe dans les fagots. Un immense soupir s'échappa de milliers de poitrines, soupir de soulagement et d'horreur, de trouble joie et d'épouvante, d'angoisse, de répulsion et de plaisir mêlés. Plusieurs femmes hurlèrent, des enfants se cachèrent la tête dans les vêtements de leurs parents. Une voix d'homme cria « Je t'avais bien dit de ne pas venir !» La fumée commença de s'élever en spirale épaisse, qu'une rafale de vent rabattit vers la loggia. Monseigneur de Valois toussa, y mettant le plus d'ostentation qu'il put, il recula entre Guillaume de Nogaret et Marigny et dit « Si cela continue, nous serons étouffés avant que vos templiers ne brûlent. Vous auriez pu au moins faire prendre du bois sec !» Nul ne fit écho à sa remarque. Nogaret, les muscles tendus, l'œil ardent, savourait âprement son triomphe. Ce bûcher, c'était l'aboutissement de 7 années de lutte, de voyages épuisants, de milliers de paroles prononcées pour convaincre, de milliers de pages écrites pour prouver. « Allez, grillez, flambez, pensait-il, vous m'avez assez tenu en échec, j'avais raison et vous êtes vaincu. » Enguerrand de Marigny, copiant son attitude sur celle du roi, se forçait à demeurer impassible et à considérer ce supplice comme une nécessité du pouvoir. « il le fallait, se répétait-il. » Mais il ne pouvait éviter, en voyant des hommes mourir, de songer à la mort, de songer à sa mort. Les deux condamnés cessaient d'être enfin des abstractions politiques. Hugues de Bouville priait sans se faire remarquer. Le vent vira, et la fumée, de seconde en seconde plus épaisse et plus haute, environna les condamnés, les cachant presque à la foule. On entendit les deux vieux hommes tousser et hoqueter contre leur poteau. Louis de Navarre se mit à rire niaisement en frottant ses yeux rougis. Son frère Charles, le cadet des fils du roi, détournait la tête. Le spectacle visiblement lui était pénible. Il avait 20 ans. Il était élancé, blond et rose, et ceux qui avaient connu son père au même âge disaient qu'il lui ressemblait de manière saisissante, mais en moins vigoureux, en moins imposant aussi, comme une copie affaiblie d'un grand modèle. L'apparence était là, mais la trempe manquait, et les dons de l'esprit également.